Bien, bonsoir. Nous allons commencer donc. Je pense que voilà. Nous avons donc le plaisir ce soir de recevoir une historienne, Juliette Denis, qui a vécu plusieurs années à Moscou, où elle a enseigné l'histoire au Collège universitaire français, tout en menant des recherches pour sa thèse, une thèse qu'elle a soutenue en 2015 et qui... Elle vient de me dire que cette thèse a été récemment primée à un prix très prestigieux, je te laisse dire lequel. Elle a reçu un très grand prix qui est celui des chancelleries. Et c'est pour ça que je veux que tu le dises, parce que je me souviens plus.
Alors, en fait, c'est le prix de la chancellerie des universités de Paris qui récompense une thèse par discipline et par an.
Donc, toutes nos félicitations, Juliette. Donc, aujourd'hui, elle est professeure agrégée en lycée en région parisienne. Elle enseigne aussi à l'École normale supérieure de Cachan. Et ce qui est intéressant, c'est que par ses travaux, elle attire l'attention du plus grand nombre sur des objets de recherche souvent méconnus, qu'il s'agisse d'un petit pays comme la Lettonie, dont Juliette a étudié la soviétisation, survenue donc en temps de guerre dans les années 40, qu'il s'agisse encore des déportés européens du Goulag, Juliette Denis ayant pris part à un vaste projet scientifique mené en partenariat avec Radio France Internationale qui consistait à collecter les récits d'anciens déportés du Goulag pour constituer des archives sonores du Goulag. Et donc 160 témoins ont été retrouvés, interrogés, les uns parlant tchèque, les autres parlant letton ou hongrois ou autre. Et en tout cas, ils avaient tous en commun d'être originaires des territoires européens annexés par l'Union soviétique pendant ou juste après la Seconde Guerre mondiale. Et certains témoignaient d'ailleurs pour la première fois. Donc avant d'écouter Juliette Denis nous parler d'une autre facette de ses travaux, je voudrais souligner qu'un des traits qui caractérise sa démarche est vraiment d'offrir une lecture incarnée des grands bouleversements politiques qui se sont exercés tantôt sur... des territoires de confins, tantôt sur des populations européennes donc emportées par la guerre ou par des politiques de répression. Et en particulier, sa maîtrise des langues lui permet d'avoir accès à une documentation rare, dispersée, une documentation exigeante, ainsi qu'à la parole directe des témoins. Donc une manière très originale de croiser à la fois les archives du pouvoir et les archives personnelles. Donc... nous l'écoutons ce soir pour une conférence intitulée « La crise des réfugiés, l'Europe en 1945 ».
Merci Anouche et merci pour le très élogieux portrait que tu as fait de mes recherches. Bonjour à tous, je remercie très chaleureusement les organisateurs de ce cycle de conférences d'avoir bien voulu m'inviter pour une conférence auquel nous avons donc donné le titre de « Crise des réfugiés ». Alors, on n'a évidemment pas choisi ce titre au hasard puisque très fréquemment... alors peut-être un peu moins maintenant, mais au moins l'année dernière, on entendait souvent dans les médias, lorsqu'ils parlaient de l'arrivée des réfugiés du Moyen-Orient en Europe, que la crise que nous affrontions en Europe était la plus importante depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et évidemment, c'était une comparaison souvent exagérée, très très rarement explicitée, et on peut quand même dire qu'effectivement, en 1945, le continent a vu plusieurs millions de personnes sans foyer, qui étaient sur les routes de l'Europe, et on peut considérer qu'effectivement, c'était une crise du refuge absolument sans précédent. Alors, évidemment, le terme de réfugié n'est pas exactement approprié au contexte de l'Europe en 1945. À l'époque, on parle plutôt de personnes déplacées. Et c'est donc ce terme que j'utiliserai dans cette conférence, dont d'ailleurs le terme plutôt d'ailleurs le terme anglais, « displaced persons », dont l'abréviation est « DPs ». Ces personnes déplacées, d'ailleurs, n'avaient pas vraiment un statut encore très clair au niveau du droit. C'est pour ça que le terme est volontairement flou et large. Et qui sont ces personnes déplacées en 1945? Eh bien, ce sont des déracinés qui viennent d'à peu près tous les horizons. On compte presque 11 millions de personnes qui sont sur les routes à la fin de la guerre et juste après la capitulation allemande. Ces personnes sont originaires d'une vingtaine de pays européens. Et leurs profils et leurs origines, comme je le disais, sont extrêmement divers. Donc on trouve parmi eux les rescapés des camps de concentration et d'extermination, on trouve les rescapés de la Shoah, On trouve d'anciens travailleurs forcés qui avaient été déportés en Allemagne ou dans les zones d'occupation allemande, notamment des Polonais et des Ukrainiens. On trouve évidemment les millions de prisonniers de guerre libérés à partir de 1945. Et puis, à partir aussi de la libération des pays de l'Est, on retrouve notamment dans les zones occidentales de l'Allemagne des centaines de milliers de réfugiés qui fuient cette fois-ci l'armée rouge. Donc on a comme ça en fait un groupe de réfugiés, de personnes déplacées extrêmement large, dont les motifs du refuge sont extrêmement différents entre ceux qui ont été déportés de manière forcée par les Allemands et ceux qui fuient l'armée rouge et le rétablissement du communisme en URSS ou la transition vers le communisme dans les pays d'Europe de l'Est. Donc, comme on peut le constater, en 1945, les réfugiés sont essentiellement des réfugiés européens et non pas extra-européens comme c'est actuellement le cas. Et évidemment, l'Europe n'a absolument pas le même profil qu'aujourd'hui. Elle est déchirée par la guerre, ravagée par le conflit, traumatisée par l'expérience nazie et en pleine reconfiguration, puisque très rapidement, le contexte géopolitique change entre la fin de la guerre et le début de la guerre froide. Malgré toutes ces différences, c'est très difficile de ne pas effectivement faire le rapprochement entre les débats que nous entendons aujourd'hui et la fin de la Seconde Guerre mondiale. En termes d'effectifs d'abord, puisque le continent tout entier semble en mouvement au sortir de la guerre. Et 3 ou 4 ans après la fin officielle du conflit, encore 1 million de personnes n'a toujours pas de foyer définitif. Certes, on le verra sans doute, à la fin de la Première Guerre mondiale, il y avait déjà eu la question du refuge qui s'était posée, surtout avec les réfugiés russes et les réfugiés arméniens, dont la plus grande spécialiste est à mes côtés. Mais malgré tout, ce phénomène de la pré-Seconde Guerre mondiale est à bien des égards inédit et les autorités ont bien du mal à y répondre. Enfin, le rapprochement principal que je ferai ce soir entre cette époque d'il y a 70 ans et aujourd'hui, c'est l'importance des discours et des représentations qui affectent les réfugiés. Et j'essaierai de montrer en quoi, justement, la représentation collective des réfugiés, leur réputation collective, est quelque chose de déterminant pour leur sort, et quelque chose de déterminant pour les perspectives migratoires et pour leur possibilité soit d'être rapatriés, soit au contraire d'émigrer. On voit donc ici à quel point la dimension historique rejoint les débats politiques actuels. Et effectivement, ça a fait quelques années que la question de ces déplacés d'après-guerre revient sur le devant de la scène. J'ai d'ailleurs eu la chance de co-organiser il y a 2 ans un colloque sur la question avec mes collègues Corinne de France et Julia Maspero. Bien évidemment, nous ne sommes pas les premières à avoir pris cette question en compte. Déjà à l'époque, entre 1945 et 1955, les chercheurs de tous bords s'intéressent à ces millions de personnes déplacées qui errent en Europe. Par exemple, en 1946, Edgar Morin visite l'Allemagne et voilà ce qu'il écrit. Et il se trompe très très peu sur sa description. 10 millions de prisonniers et déportés de tous les pays d'Europe se trouvaient, en avril 1945, sur le sol allemand. Au mois de novembre, 9 millions d'entre eux avaient été rapatriés. Il reste en Allemagne près d'1 million de personnes, apatrides ne sachant quelle terre rejoindre, malades, déportés de régions trop lointaines. Pendant 6 mois, la vie de ces millions de dippies a été un spectacle très curieux qui mériterait une étude approfondie. Donc il était déjà lui aussi persuadé que ce sujet méritait non seulement d'être connu de l'opinion publique européenne, mais également d'être étudié. Dans les années 1950, si beaucoup de travaux portent sur les personnes déplacées, c'est justement en lien avec le statut juridique international qui est en train de se mettre en place. Puis quasiment plus rien pendant une quarantaine d'années. Donc le sujet a quasiment disparu des recherches juridiques et historiques jusqu'à une date relativement récente. Dans les années 90, une nouvelle génération d'historiens issus notamment de ces minorités de réfugiés a recommencé à se pencher sur la question depuis les pays où ces réfugiés avaient immigré. Et il s'agit notamment des États-Unis, du Canada, d'Israël et aussi de l'Allemagne qui, comme on va le voir, est le cœur géographique du problème réfugié dans la fin de la guerre. Et donc depuis une dizaine d'années, grâce au renouveau aussi des sources disponibles, les historiens ont recommencé à se pencher sur la question. Je voudrais vous donner un très rapide panorama des sources sur lesquelles on travaille, parce que comme vous allez le constater, elles sont diverses, et c'est d'ailleurs souvent un problème, parce qu'elles sont presque trop nombreuses, dans des langues extrêmement variées, et elles sont très différentes les unes des autres. Donc, vous avez d'abord les sources des autorités qui contrôlent l'Allemagne à l'époque, c'est-à-dire les quatre zones d'occupation de l'Allemagne, française, anglaise, américaine et soviétique. Il existe aussi deux organismes internationaux qui chapeautent la question de l'aide aux déplacés. D'abord, ce qu'on appelle l'UNRWA, et qui devient très vite l'OIR, l'Organisation internationale des réfugiés, qui s'intéresse aussi bien aux soucis matériels des réfugiés, mais aussi à leur statut, à leur possibilité d'émigration ou à leur obligation de rapatriement. Chacun des pays dont proviennent ces réfugiés ont aussi des sources qui les concernent, puisque beaucoup de ces réfugiés sont partis contre le gré des autorités politiques de l'époque, je pense surtout aux autorités soviétiques, qui ne cessent de s'interroger sur la façon dont elles doivent les percevoir. Donc, en ce qui me concerne, puisque ma thèse porte sur la Lettonie, j'ai trouvé de très, très, très nombreux dossiers des archives soviétiques qui concernent justement les personnes déplacées lettonnes hors de leurs frontières. Et les autorités soviétiques, à leur égard, développent une propagande dont, d'ailleurs, je parlerai à la fin de ma présentation. Outre ces archives administratives, on a de plus en plus de parcours biographiques qui sont disponibles grâce à un institut qui s'appelle le Centre de traçabilité internationale. Alors, je sais que c'est un titre un peu ronflant, mais en réalité, c'est un institut créé à l'époque pour faire en sorte que les réfugiés se retrouvent les uns avec les autres. Si bien que cet institut dispose de plusieurs centaines de milliers de témoignages de réfugiés qui expliquent d'où ils viennent, leur parcours, leurs attentes, dans l'optique soit de les aider à immigrer, soit aussi de les aider à retrouver leur famille, qui elles aussi, en général, sont dispersées partout en Europe. Pour vous donner juste, excusez-moi, je fais une parenthèse, pour vous donner une idée du degré de dispersion des familles en Europe dans l'après-guerre, il faut imaginer qu'en URSS, dans les années 60, donc presque 20 ans après le conflit, il existait encore une émission à la radio qui avait comme objectif de faire en sorte que les Soviétiques séparés par le conflit se retrouvent, et que ce soit à l'intérieur des frontières ou à l'extérieur des frontières. C'était une émission de radio animée notamment par la tante de mon directeur de thèse, c'est pour ça que j'en connais l'existence, mais son objectif principal était d'aider les gens à se retrouver. Donc on est face à une situation où, humainement, effectivement, le refuge crée des séparations familiales quasiment définitives, du moins extrêmement longues. La plupart des historiens, à travers toutes ces sources et puis les témoignages qu'on peut aussi recueillir de ces personnes, cherchent à mêler une histoire qui vient d'en bas, c'est-à-dire la façon dont les réfugiés ont vécu ces trajectoires, et une histoire qui vient d'en haut, c'est-à-dire la façon dont les autorités ont géré cet afflux de population. Donc il y a trois dimensions maintenant qui sont la plupart du temps suivies par les historiens. La première, ce serait comment est-ce que les personnes déplacées réagissent à leur exil et tentent d'influencer par des activités qu'on pourrait qualifier de lobbying, par la voix de leurs représentants, les puissances occidentales, dans l'idée d'immigrer. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe concerne essentiellement les personnes déplacées d'origine juive, avec cette spécificité que les déplacés d'origine juive sont les rescapés de la Shoah. Et ils mettent l'accent sur cette figure de la personne déplacée juive comme seule survivante de cette catastrophe et aussi comme porteur du souvenir du monde disparu, qui est le monde notamment des juifs de l'Est de l'Europe, dont l'univers a disparu en même temps qu'ont été exterminés les juifs est-européens. Troisième et dernier axe, ce qui frappe sans doute, c'est la façon dont les réfugiés sont perçus par l'opinion publique occidentale et par les autorités occidentales et soviétiques, et la rapidité avec laquelle leur réputation change. Et une des raisons pour laquelle cette réputation change aussi vite, c'est sans doute le passage de l'alliance des grands au moment de la guerre à leur fracture au moment de la guerre froide. Et c'est donc ce que je vais étudier aujourd'hui, c'est la façon dont la perception des personnes déplacées a changé du fait de la guerre froide et a donc influencé la possibilité de migration. Pour répondre à cette question, je voudrais donc présenter mon intervention en trois temps. Donc premièrement, je centrerai une partie sur la question de l'Allemagne, qui est le territoire du refuge dans l'après-guerre. Et pour essayer de présenter rapidement quel est ce cadre de vie, que ce soit en termes juridiques, que ce soit en termes quotidiens, des réfugiés. En deuxième partie, je reviendrai à partir des exemples que j'ai étudiés dans ma thèse sur justement la réputation de ces réfugiés.
Donc, Anouchkine vous l'a dit, j'ai travaillé sur la Lettonie. Et il se trouve que, justement, de ce tout petit pays sont partis en 1944-45 150 000 personnes qui fuyaient essentiellement l'armée rouge. Alors, ça paraît pas énorme, mais à l'échelle de la Lettonie, c'est quasiment 10% de la population. Donc, c'est un flux extrêmement important de population de fuite hein, auquel on assiste à cette époque-là. Et par ailleurs, les Lettons correspondent donc non seulement à 10% de la population d'origine de Lettonie, mais aussi à peu près à 20% des réfugiés de l'Europe dans l'après-guerre. Donc les Lettons sont assez emblématiques de ce groupe de personnes déplacées dont je vais parler. Et c'est donc leur réputation collective du point de vue allié que je vais étudier dans cette deuxième partie. Et enfin, en troisième partie, je reviendrai sur le point de vue soviétique sur ces réfugiés. L'URSS n'ayant plus à cette époque de moyens de les rapatrier de force, elle en a pris conscience, mais comment les perçoivent-elles et comment est-ce qu'elle instrumentalise cette question pour sa propre propagande? Ce sera donc la troisième et dernière partie de mon intervention. Donc, l'Allemagne, en 1945, de la sortie de la guerre à la guerre froide, est l'épicentre de la question du refuge en Europe. Plus de 20 millions de déracinés sont dispersés à travers l'Europe, mais comme je vous le disais, presque 11 millions d'entre eux, 12 sans doute, sont en Allemagne. Et à ce titre, on peut noter donc un paradoxe, puisque le régime le plus nationaliste et le plus raciste qui ait existé dans l'histoire européenne jusqu'à nos jours est le pays par essence de la diversité multiculturelle de l'Europe pendant la guerre et après la guerre. Alors, ça s'explique aisément par les politiques de déportation forcée menées par les nazis, puisque une vingtaine de peuples européens ont subi la déportation forcée. Il en est de même pour les prisonniers de guerre. Il en est de même aussi pour les politiques d'exclusion et d'extermination. Donc, l'Allemagne se retrouve, du fait de la politique des nazis, au cœur de la diversité culturelle en Europe. En 1945, c'est encore plus le cas, puisque tous ceux qui ne savent pas où aller et qui veulent principalement rejoindre l'Est sont obligés de traverser le territoire allemand, du fait de sa position géographique entre l'Est et l'Ouest, et en général s'y trouvent bloqués, puisque les autorités d'occupation font très attention à limiter les flux. Et c'est donc un espace de transition à tous les niveaux. Donc c'est un espace de transition géographique, c'est un espace de transit pour les millions de personnes qui s'y trouvent, et c'est aussi un espace de transition d'un point de vue historique, puisque c'est l'Allemagne qui concentre aussi les futurs enjeux de guerre froide. Donc je rappelle, hein, c'est évidemment, j'imagine, bien connu, que les trois zones d'occupation occidentale demeurent des zones d'occupation administrées par les autorités militaires des vainqueurs occidentaux, mais deviennent la RFA en 1949, tandis que la zone d'occupation soviétique, qui, elle, est administrée par les cadres de l'armée rouge, devient la RDA à la même date. Donc on est vraiment au cœur du problème à la fois géopolitique qui anime le monde à partir de cette date, mais aussi au cœur du problème du refuge. Au début donc, lorsque les alliés arrivent, qu'ils soient occidentaux ou soviétiques, ils sont confrontés à ces millions de personnes non-allemands ou non-originaires de l'Allemagne qu'il s'agit de définir, qu'il s'agit de regrouper, de rapatrier et pour ceux qui restent, de vérifier. Donc, au départ, en 1944, déjà à l'époque, l'état-major général des Alliés se rend compte qu'il va y avoir un problème sur la question du rapatriement, puisqu'ils savent très bien, déjà connaissant bien les fonctionnements du régime nazi, que se trouvent en Allemagne des millions de prisonniers de guerre et de travailleurs forcés. L'état-major définit donc comme personne déplacée toute personne se trouvant hors de son pays et souhaitant rentrer chez elle, ainsi que toute personne à la recherche d'une nouvelle patrie, mais ne pouvant y parvenir par ses propres moyens. Donc la définition est volontairement extrêmement large et prend en compte aussi tous les prisonniers de guerre et les travailleurs forcés. Petit à petit, avec le temps, les Alliés peaufinent la catégorisation de personnes déplacées. Donc les personnes déplacées sont définies en fonction de leur origine. En 1945, au moment où les Alliés occupent l'Allemagne, on distingue les personnes déplacées des Nations Unies, les personnes déplacées des nations ennemies, c'est-à-dire les Allemands qui seraient partis d'Europe de l'Est et rentrés chez eux, par exemple, de même pour les Autrichiens et de même en Asie pour les Japonais, et enfin les personnes déplacées des nations ex-ennemies, c'est-à-dire tous les alliés de l'Allemagne en ce qui concerne l'Europe. Chacun de ces groupes subit un traitement légèrement différent, puisque notamment en termes d'urgence du rapatriement, on s'occupe d'abord des personnes déplacées alliées, avant de s'intéresser aux ennemis et aux ex-ennemis. Du fait des accords de rapatriement qui ont été conclus à Yalta en 1945, l'immense majorité de ces personnes déplacées définies au tout début de l'année rentrent chez eux de leur plein gré ou en vertu justement du système de rapatriement qui a été mis en place à cette époque. Donc dès les premiers mois qui suivent la capitulation allemande, des millions de personnes déplacées rentrent chez elles et on peut considérer que l'immense majorité d'entre elles rentrent volontairement chez elles. Par exemple, les soviétiques considèrent, en ce qui les concerne, que la question des personnes déplacées est réglée dans leur zone en 1946. Et à la fin de cette même année, la Croix-Rouge et les organismes internationaux s'accordent à dire qu'environ 90% des personnes déplacées sont rentrées chez elles. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est ce dernier million. C'est le million de personnes qui, elles, ne veulent pas rentrer chez elles, ou qui ne peut pas rentrer chez elle et qui va être prise en charge à partir de 1946 par les autorités alliées. Ces personnes, ce dernier million, se situent essentiellement dans les zones occidentales. Et cette fois-ci, s'il s'agissait de les définir, on trouverait parmi elles des personnes déplacées majoritairement d'origine polonaise, ukrainienne, balte, et des nouveaux venus qui arrivent petit à petit en 1946 et en 1947. Ces nouveaux venus viennent des pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est qui sont en train de devenir communistes. Il s'agit aussi de personnes d'origine juive, notamment polonaise, qui, lorsqu'elles sont rentrées chez elles, ont fait face à un antisémitisme toujours aussi virulent et ont dû ou ont préféré s'exiler. Donc, face à l'afflux de ce qu'on pourrait appeler des néo-réfugiés qui viennent s'ajouter à ceux qui sont arrivés pendant la guerre ou à la fin de la guerre, les autorités d'occupation accordent une assistance et une protection. Ils sont donc une fois de plus amenés à redéfinir le statut de personne déplacée et à le restreindre un peu plus pour l'accorder exactement à ce dernier million de personnes qui restent sur leur territoire. Donc ils décident de prendre en charge des DIPIS qui sont désormais qualifiés de non rapatriables et qui sont placés donc sous l'égide des organismes internationaux et sous le contrôle en ce qui concerne leur vérification policière et juridique des autorités militaires alliées. Donc, comme on peut le voir, ce dernier million est un dernier million de personnes déplacées dont l'origine, le statut et le mode de vie sont extrêmement variés. Je vais vous donner quelques exemples stéréotypés qui correspondent à des cas que j'ai vraiment rencontrés, hein, c'est-à-dire des personnes dont j'ai eu la chance de lire les mémoires ou avec lesquelles j'ai pu faire des entretiens. Donc, on a par exemple le cas, je vais vous en donner trois, d'un juif polonais qui avait été exilé en URSS pendant la Seconde Guerre mondiale, qui rentre chez lui en Pologne en 1945, mais qui fait face à l'hostilité à peine voilée ou carrément meurtrière d'une grande partie de la population polonaise, de ces fameux voisins dont parle l'historien Jan Gross, qui ont récupéré les biens des personnes juives déplacées et qui voient d'un très mauvais œil revenir ces rescapés de la Shoah. C'est cette personne avec laquelle j'ai réalisé un entretien a donc cherché d'abord à rentrer chez elle en Pologne et face à la reprise de certains pogroms dans certaines localités polonaises, il a décidé de s'exiler et le lieu d'exil le plus simple pour accéder à une immigration plus pérenne, c'était l'Allemagne. Deuxième cas, qui n'a absolument rien à voir, c'est le cas d'un industriel laiton qui était propriétaire d'une usine de chocolat extrêmement connue à Riga. Et cette usine a financé la division SS lettonne, qui a donc été partie intégrante de la Waffen-SS pendant la guerre. Comme il était un collaborateur de haut rang et qu'il avait un certain nombre de réseaux sociaux avec les dignitaires nazis, il a pu s'enfuir de Lettonie avant que ne revienne l'armée rouge. Et il est parti, lui, avec une partie de ses biens, avec l'intégralité de sa famille. Et en Allemagne, il a des soutiens parce qu'il parle allemand, il connaît un certain nombre de personnes de gradés allemands. Et donc, on peut considérer que lui, c'est un collaborateur de haut rang qui est parti pour éviter un juste châtiment que lui promettait évidemment le retour de l'armée rouge. Troisième exemple, une famille ukrainienne persécutée sous Staline à plusieurs reprises dans les années 30, à la fois pendant la grande famine ukrainienne et ensuite pendant la grande terreur de 1937, et qui profite de la retraite de la Wehrmacht et du chaos causé par la retraite allemande pour s'enfuir avec les Allemands dans le sillage de l'armée allemande. Donc là, on peut considérer que ce sont des victimes du régime stalinien qui, grâce à la sortie de guerre, grâce au chaos de la sortie de guerre, a pu sortir du territoire soviétique. Tous les profils sociaux de ces 800 000 à 1 million de personnes qui séjournent en Allemagne en 1946 sont aussi extrêmement divers. Je voudrais juste attirer votre attention sur l'importance des clichés qui ont accompagné toute l'histoire des personnes déplacées. Souvent, les personnes déplacées, notamment celles qui viennent des pays d'Europe centrale, se sont présentées comme l'élite de la nation, comme des intellectuels qui représentent leur nation en exil. Ça, ce sont les sociologues qui l'ont mis en avant. Cette volonté de se présenter comme l'élite nationale avait aussi pour but politique de dénoncer le régime communiste, par exemple hongrois ou tchèque, et de se présenter comme les réels représentants d'une nation qui n'existe plus dans le pays d'origine. Donc c'est pour ça que souvent on a une surreprésentation des témoignages de l'élite culturelle en exil, parce qu'il y a aussi, à cette époque de guerre froide, une volonté politique très marquée de se représenter comme la réelle nation, mais une nation en exil. Autre cliché, l'importance des paysans parmi ces exilés. Les paysans auraient été la majorité en proportion de ces réfugiés. Bon, ce qui est à peu près normal à cette époque, puisque le monde est encore très rural. Néanmoins, j'ai pu remarquer que les personnes déplacées redéfinissaient leur statut professionnel en exil pour s'adapter le mieux possible aux quotas d'immigration des pays occidentaux. Donc j'y reviendrai par la suite. Les États-Unis notamment ont mis en place en 1948 une politique d'émigration destinée justement à ces déplacés, mais les quotas étaient définis par catégorie professionnelle ou catégorie ethnique. Et parmi les catégories professionnelles exigées par les États-Unis, il y avait une forte proportion de travailleurs de la terre. C'est pourquoi les exilés, notamment ceux que j'ai étudiés, les Lettons, très rapidement ont réécrit, ont même d'ailleurs reformer leur statut professionnel afin de s'adapter au mieux aux quotas migratoires. Donc, effectivement, il existe des paysans, effectivement, il existe des intellectuels, mais souvent, ces deux catégories sont surreprésentées dans les témoignages du fait, justement, des clichés ou des objectifs migratoires qui leur sont associés. Donc, je le disais tout à l'heure, hein, les alliés occidentaux, soviétiques, seront vraiment conscients d'être face à un problème migratoire. Ils ne pourront pas laisser 1 million de personnes dans une Allemagne qui est largement détruite et ravagée par le conflit. Allemagne qui est par ailleurs divisée. Allemagne qui cherche aussi à régler la dénazification. Si bien qu'on s'interroge sur la façon dont on va gérer ce million de personnes. Donc, premier réflexe, un réflexe de regroupement dans des camps, la plupart du temps par nationalité, afin de gérer au quotidien donc les besoins de ces déplacés, mais aussi afin de recenser leur origine nationale et éventuellement de dialoguer avec leur pays d'origine. Deuxième élément de contrôle, cette fois-ci, un élément que j'appellerais le filtrage, ou alors screening en anglais, afin de s'assurer qu'il s'agit de réfugiés légitimes et non pas de collaborateurs fuyant le jugement en épuration. Déjà, une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies en février 1946 prévoit de reconnaître la nécessité de faire une distinction nette entre les réfugiés authentiques et les personnes déplacées d'une part, et les criminels de guerre, les quislings et autres traîtres de l'autre part. Donc, on demande à ce que les réfugiés justifient leur présence en Allemagne et démontrent qu'ils n'ont pas fait, comme l'exemple de l'industriel Letton que je vous citais, partie de la collaboration active avec les nazis. C'est donc l'ère du soupçon. Un soupçon qui touche l'intégralité des réfugiés, et ce soupçon a plusieurs raisons d'être. D'abord, donc, je vous le disais, les occupants occidentaux de l'Allemagne et les soviétiques sont prompts à qualifier les personnes déplacées de fascistes et de criminels, tout comme les organisations internationales qui ont énormément de doutes vis-à-vis de ces réfugiés, notamment ukrainiens, baltes et polonais. Les Allemands eux-mêmes, qui vivent souvent au contact avec les réfugiés, sont enclins à considérer les personnes déplacées comme des parasites, comme des délinquants, très souvent d'ailleurs les considèrent avec beaucoup de préjugés racistes qui n'ont pas disparu une fois la capitulation allemande réalisée. Il semble aussi qu'il y a un soupçon pour des populations nomades a priori qui entourent ces réfugiés. tout comme d'ailleurs en général les réfugiés le subissent. Le fait que ces personnes n'aient plus de nationalité ou qu'ils soient considérés comme des apatrides, même si ce n'est pas exactement leur statut, leur confère une position suspecte dans la société allemande. Et enfin, donc, il existe un soupçon d'impureté politique en termes de passé récent qui serait entaché de collaboration. Donc, le filtrage organisé par les Occidentaux a suivi un rythme relativement chahuté et il répond aussi à des objectifs qu'on peut retrouver, par exemple, dans la dénazification, qui est menée au même moment en Allemagne, mais cette fois-ci pour les Allemands. Ce qu'on peut observer, c'est que ce filtrage, premièrement, n'a pas été mené de manière rigoureuse, et deuxièmement, s'est arrêté relativement vite. En effet, c'est ce que je vais démontrer dans la suite de mon intervention, au bout d'un moment, il n'importe plus aux alliés occidentaux que les réfugiés d'Europe de l'Est soient ou non des complices d'Hitler. Ce qui les intéresse avant tout, c'est de les considérer comme des victimes de Staline, et à ce titre, étant donné le début de la guerre froide, la plupart des réfugiés d'Europe de l'Est auront de grandes facilités pour immigrer sans vérification aucune de leur passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce que je voudrais dire pour conclure cette partie, c'est que les soviétiques aussi ont opéré leur propre mode de filtrage, de filtration, le terme soviétique étant filtration. C'est-à-dire que quand les rapatriés rentraient en URSS, ils étaient censés passer plusieurs étapes de vérification. Et sur les, en gros, 6 millions de soviétiques qui sont rentrés chez eux en 1945-46, il y en a environ 500 000 qui ont été condamnés à des peines extrêmement diverses. La peine la plus dure étant l'emprisonnement dans les camps de travail. La peine la moins dure étant l'embrigadement pour quelques années dans des brigades de travail forcé destinées à reconstruire le pays. Donc on peut considérer que cette vérification des réfugiés est un principe qui, à l'époque, est un principe européen. Tous les États, quelle que soit leur couleur politique, le pratiquent, puisque les réfugiés sont vraiment entachés d'un soupçon qu'il est difficile de supprimer. Là, je vais vous donner un dernier exemple. Un rapatrié, c'est le seul cas que j'ai trouvé de juif letton qui avait réussi à survivre en Allemagne pendant la guerre et qui est rentré en URSS. Les autorités policières avaient énormément du mal à croire qu'il existait encore des juifs lettons en vie. Et leur constat était fondé sur une réalité, hein, à savoir que presque l'intégralité des juifs lettons ont été exterminés au tout début de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ce juif, victime de la Shoah et rescapé, a eu la plus grande peine du monde à démontrer son origine juive, puisqu'il était quasiment impensable du point de vue de la police soviétique qu'il existe encore des juifs en vie. Donc ce soupçon est vraiment généralisé. Toutes les autorités politiques en font montre, mais au fur et à mesure que le temps passe, ce soupçon va totalement changer de forme et va même se renverser. Donc c'est le début de la guerre froide qui change la situation. Donc on date en général le début de la guerre froide à l'année 1946 avec le fameux discours de Fulton prononcé par Winston Churchill qui annonce qu'un rideau de fer s'est abattu sur l'Europe. Il est vrai que les véritables tensions commencent en 1946 puisqu'ensuite il y a une réponse de Staline. Il est vrai aussi que les frontières européennes se referment à cette époque-là. Et en 1947, avec Truman, la tension augmente d'un cran. En réalité, on peut dater les débuts de l'hostilité entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest un peu avant. Déjà en 1945, les alliés semblent se fissurer. Et parmi tous les débats qui opposent alliés occidentaux et soviétiques, la question du refuge est souvent d'ailleurs un problème récurrent. Les soviétiques exigent que tous les citoyens de l'URSS soient rapatriés, quel que soit leur profil, quel que soit leur motif, tandis que rapidement, les alliés occidentaux vont permettre à certains déplacés de l'URSS de ne pas rentrer chez eux. En 1946, la question est réglée puisque très rapidement, donc, l'Organisation internationale des réfugiés annonce que les déplacés qui ne veulent pas rentrer chez eux ne peuvent pas être rapatriés de force. Et c'est donc une sorte de défaite de l'argumentaire soviétique. Une victoire, certes, pour les déplacés, et aussi la démonstration que les alliés occidentaux n'ont pas du tout l'intention de continuer leur vérification et éventuellement la condamnation des déplacés qui se seraient compromis avec les Allemands. Si bien que, à partir de 1947-1948, dans les zones occidentales de l'Allemagne occupée. La vérification s'estompe, voire s'arrête, et la plupart des pays occidentaux mettent en place des programmes d'émigration pour les 800 000 personnes qui restent en Allemagne. Ce sont le Canada et l'Australie qui sont les premiers à ouvrir leurs frontières, bientôt suivis par les États-Unis en 1948. Et à la fin des années 1940, il reste encore quelques 200 000 personnes déplacées en Allemagne. Mais dans l'ensemble, même ces 200 000 personnes vont rapidement émigrer à l'Ouest ou alors s'intégrer dans la société allemande. Donc on peut considérer au début des années 50 que la question est définitivement réglée et qu'aucun, je pense, mais réellement aucun déplacé de cette époque n'aura été jugé pour d'éventuels crimes de collaboration. Et en fait, on en voit encore les traces aujourd'hui, puisque certains procès qui ont eu lieu au Canada, aux États-Unis, de personnes d'origine ukrainienne, qui avaient été des gardiens de camps de concentration, démontrent bien que ces personnes qui ont fui en 1945 n'avaient jamais été inquiétées, ni à la fin de la guerre, ni ensuite dans la reprise des procès en collaboration dans les années 60. Donc, ma deuxième partie porte sur, justement, je vous le disais, la réputation des déplacés baltes, et notamment lettons, qui sont passés d'une réputation collective de complices d'Hitler à une réputation collective de victimes de Staline. Alors, je voudrais juste vous rappeler brièvement quel est le contexte de la Lettonie pour que vous compreniez pourquoi est-ce que ce groupe de personnes a collectivement décidé de quitter le pays en 1944. Donc, il sera sans doute plus simple que je vous montre les cartes. Moi, je peux commencer sans, en fait. Alors, la Lettonie, c'est l'un des trois petits pays baltes. C'est celui du milieu. C'est un peu pour ça que j'ai choisi, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Ah, ben, je suis désolée. Ben, ça va être sans carte. Excusez-moi. Alors, la Lettonie, avec ses deux voisins baltes, a été annexée à l'URSS en 1940. Dans les suites du pacte Ribbentrop-Molotov qui prévoyait quelles étaient les annexions nazies et quelles étaient les annexions soviétiques en Europe de l'Est. Donc pendant un an, la Lettonie devient une république socialiste soviétique et il ne se passe pas grand-chose parce que les soviétiques, les autorités, espèrent encore avoir le temps pour transformer le pays. Le seul événement véritablement marquant de cette première année de soviétisation, c'est la déportation de 16 000 personnes faisant partie de l'élite culturelle, politique, militaire et économique le 14 juin 1941. Une déportation qui s'est faite aux yeux de tous et qui a énormément marqué la population. Il se trouve, ironie du sort, que cette déportation intervient une semaine avant que la Wehrmacht ne franchisse les frontières soviétiques et envahisse le pays. Si bien qu'au moment où les Allemands arrivent, les Lettons les accueillent en libérateurs, hormis bien sûr les minorités juives, les minorités russes et évidemment aussi les franges de l'opinion publique communiste. La politique allemande d'occupation en Lettonie a été relativement plus souple qu'ailleurs en URSS occupée, pour différentes raisons que je ne vais pas exposer parce que ce n'est pas le sujet de ma conférence. Ce que je voudrais dire simplement, c'est que les traits marquants de l'occupation allemande en Lettonie, c'est premièrement, je vous l'ai dit, l'extermination quasiment totale de la population juive et l'ampleur de la collaboration. On compte environ 200 000 Lettons qui, d'une manière ou d'une autre, ont porté l'uniforme allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, sur une population d'à peine 2 millions d'habitants, c'est une proportion extrêmement importante. À l'inverse, il y a extrêmement peu de Lettons dans les rangs des partisans soviétiques ou dans l'armée rouge. Donc évidemment, du point de vue soviétique, ces effectifs même démontrent la collaboration massive de la population lettonne. Au moment où l'armée rouge arrive en Lettonie en 1944, la Lettonie a ceci d'inédit en Europe de l'Est, c'est qu'une partie de son territoire résiste à l'avancée soviétique et résistera jusqu'à la capitulation allemande. Donc presque toute la Lettonie est reconquise en 1944, sauf une région qui est à l'ouest, qui est une région maritime, d'où peuvent s'enfuir de très nombreux Lettons. C'est pour ça aussi qu'il y a autant de Lettons en Allemagne après la guerre, c'est parce qu'il y a une porte de sortie qui a été ouverte beaucoup plus longtemps qu'ailleurs en URSS et qui a permis, donc, je vous le disais, à peu près 200 000 personnes de s'enfuir. Et sur ces 200 000 personnes, 150 000 se trouvent en Allemagne et 130 000 émigreront définitivement. Donc, la fuite lettonne est absolument gigantesque par rapport au pays, par rapport à la population globale, et par rapport au nombre total de réfugiés qui restent en Allemagne à partir de 45-46. Donc les motivations et les parcours de ces réfugiés lettons sont extrêmement variés. Je vous l'ai dit, il y a certaines figures connues de la collaboration militaire, policière et économique qui ont pu fuir pour échapper à un procès en épuration. D'autres familles entières craignent bien évidemment Staline parce qu'elles ont connu la répression de 1941, parce qu'elles ont peur que cette répression reprenne dans des proportions encore plus fortes. Donc on a parmi les lettons aussi bien des collaborateurs notoires que des victimes réelles du régime stalinien qui se sont peu compromis avec les Allemands. Mon hypothèse est que, hormis quelques cas connus, il est quasiment impossible de connaître la réalité du passé politique des réfugiés lettons et qu'il sera peut-être sans doute impossible d'estimer parmi les 150 000 réfugiés qui étaient vraiment collaborateurs et qui ne l'étaient pas. Et je pense que c'est une question non résolue, parce que justement, après la guerre, les procès ou les vérifications n'ont pas été faites. Quand ils arrivent sur le territoire allemand, les Lettons bénéficient, avec les Lituaniens et les Estoniens, d'un traitement de faveur des autorités alliées occidentales, qui ne les considèrent pas comme des citoyens soviétiques, au même titre que les Russes, les Ukrainiens ou les Biélorusses, parce que justement, l'annexion des Pays-Baltes n'a pas été reconnue par les États-Unis, ni par la Grande-Bretagne, et encore moins par la France. Donc, n'étant pas officiellement citoyens soviétiques, les Lettons, les Estoniens, les Lituaniens, qui se déclarent comme tels, échappent très très vite au rapatriement forcé. Avant même qu'en 1946, on définisse le rapatriement forcé comme contraire au droit international, les Baltes, quant à eux, ont un traitement de faveur. L'extrême majorité des réfugiés lettons et baltes demeurent dans les zones occidentales de l'Allemagne. Tous ceux, évidemment, qui ont été bloqués dans la zone soviétique sont rapatriés, quant à eux, par les autorités soviétiques. A priori, donc, ils sont sauvés. Ils ne sont pas obligés de rentrer en URSS, ce qui n'empêche pas, malgré tout, la suspicion, puisque s'il n'est plus question d'envisager le rapatriement collectif, néanmoins, en 1945-46, on cherche à les vérifier. Soucieuse de ne pas se discréditer dans l'opinion internationale, les autorités occidentales et l'Organisation internationale des réfugiés s'engagent donc à administrer le statut de personne déplacée uniquement aux réfugiés de bonne foi et au passé clair. Or justement, donc, les Baltes, à cette époque, ont plutôt mauvaise réputation auprès des alliés occidentaux. Au départ, en 1940, le peu que ce que les Américains et les Britanniques savaient de l'annexion avait rendu les Baltes plutôt sympathiques dans l'opinion publique. Mais pendant la guerre, les choses changent, puisqu'il y a quand même beaucoup d'informations qui filtrent de l'URSS occupée. Et en 1942, la presse américaine et britannique n'hésite pas à publier de très longs rapports qui décrivent l'extermination des Juifs en Lettonie, en Lituanie, et qui mettent l'accent sur le rôle des collaborateurs locaux. Si bien qu'en 1945, la plupart des réfugiés baltes sont considérés tous collectivement comme des collaborateurs. Par ailleurs, je vous le disais, beaucoup de Lettons et d'Estoniens étaient recrutés dans la Waffen-SS, si bien qu'ils sont capturés par les Occidentaux avec l'uniforme nazi, ce qui n'arrange rien pour leur réputation collective. Donc le soupçon se répand sur l'intégralité des personnes déplacées d'origine balte. Et par exemple, l'Organisation internationale des réfugiés les considère plus que tous les autres comme une population à risque en raison de leur potentielle culpabilité. Les vérifications commencent. Elles débutent localement en 1945. Elles s'interrompent au cours de l'année. Elles reprennent pour les réfugiés d'origine balte en 1946-47. Et en février 1946, par exemple, l'armée américaine annonce à la radio la vérification prochaine de toutes les personnes déplacées estoniennes, lettonnes et lituaniennes de la zone. Le général américain qui est chargé de cette question annonce ainsi « Si nous devons les renvoyer de force, nous le ferons, mais nous ne garderons pas des pro-nazis dans les camps de réfugiés aux côtés des personnes déplacées légitimes qui ont réellement souffert sous le régime nazi. » Vous imaginez donc l'inquiétude qui se répand à travers les réfugiés d'origine balte qui deviennent de plus en plus paniqués à l'idée d'être rapatriés de force en URSS s'il est démontré qu'ils ont collaboré. Mais par chance, en fait, les enquêtes alliées sont très mal faites. Alors ça, c'est un peu un point obscur des recherches historiques parce qu'on a énormément de mal à trouver les archives, ce qui est un peu un paradoxe puisque je vous disais que les archives sont extrêmement nombreuses sur la question. On a du mal à savoir comment se faisait concrètement cette vérification. J'ai pu lire quelques témoignages de personnes qui avaient été vérifiées, mais je n'ai pas réussi à trouver les archives papier de ces vérifications, si bien que je ne peux pas vous décrire exactement comment ça s'est passé. Ce qui est certain, c'est qu'elles ont été bâclées. On peut dire ça comme ça. Elles ont été bâclées, et ce n'est pas forcément la faute des agents qui menaient ces vérifications. Il faut dire que le contexte pour récupérer des preuves est extrêmement compliqué. Donc, les critères de vérification fluctuent. On ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on définit comme collaboration. Par ailleurs, les preuves manquent. Souvent, d'ailleurs, les Occidentaux ne demandent pas aux Soviétiques de leur fournir leurs propres archives. Les Soviétiques, quant à eux, de manière extrêmement surprenante, n'ont pas cherché à donner aux Occidentaux les listes de collaborateurs que eux, ils avaient établies chez eux. Et donc, pour les personnes déplacées, du moins pour celles qui sont coupables, il est extrêmement aisé de se faire passer pour quelqu'un d'innocent. Par exemple, les soldats lettons, ils troquent rapidement leurs uniformes de guerre pour des vêtements civils. Ou alors, s'ils sont récupérés en habits militaires, ils inventent des histoires complètement farfelues pour démontrer que c'était le seul habit qu'ils avaient trouvé dans une Allemagne en ruine, bombardée et ravagée. Ou encore, il existe des cas qui ont été découverts dans les années 90-2000 de collaborateurs notoires qui se sont fait passer pour juifs afin d'échapper à la vérification. Par ailleurs, les DPIS s'organisent pour que cette vérification s'éteigne le plus vite possible. Et en ce qui concerne les Lettons, ils ont des représentants officiels qui permettent de les aider. Puisque, comme je vous le disais, les États-Unis n'ont pas reconnu l'annexion de la Lettonie. Il reste encore un ambassadeur letton aux États-Unis, tout comme il en reste un en Grande-Bretagne. Et il reste aussi un représentant de la Lettonie à Genève. Si bien que ces diplomates officiels n'hésitent pas à clamer l'innocence collective du groupe et a demandé à de très nombreuses reprises que les vérifications soient supprimées. Donc, les diplomates baltes répètent à quel point la Lettonie est une victime du stalinisme, répètent à quel point les Lettons ont été accusés à tort de collaboration. Ils démontrent que cette accusation massive de collaboration est le fruit d'une propagande soviétique et ils n'hésitent pas non plus à s'engager dans une véritable concurrence des victimes, notamment se positionnant par rapport aux personnes déplacées d'origine juive. Donc, ils innocentent leur propre peuple, mais en même temps, ils considèrent que les fonctionnaires occidentaux chargés de la vérification démontrent une rigueur injuste envers les Baltes et d'une sympathie tout aussi excessive envers les Juifs arrivés d'Europe de l'Est. En fait, déjà, ce qui est intéressant, c'est que dans ce discours apparaît très vite ce qui va devenir en fait une sorte de cliché aussi bien de l'historiographie que de l'opinion publique, c'est-à-dire la mise sur le même plan des victimes du stalinisme et du nazisme. En fait, c'est pas juste une volonté des historiens de rapprocher des systèmes différents, c'est dès le départ en fait une volonté politique qui s'exprime dans le cas que je présente pour la protection des réfugiés. Donc, par exemple, le représentant letton à Genève écrit aux fonctionnaires de l'Organisation internationale des réfugiés. Et il conclut sa lettre en disant « Les Baltes, tout aussi bien que les Juifs, ont droit à la compréhension, à la sympathie et aux égards des fonctionnaires de l'Organisation internationale des réfugiés. » Ce qui est intéressant, c'est que très vite, des associations américaines suivent le discours balte, notamment les associations luthériennes, puisque la plupart des réfugiés baltes sont protestants, et les associations catholiques, puisque les Lituaniens, quant à eux, sont catholiques. Donc il relaie dans l'opinion publique américaine le discours porté par les personnes déplacées baltes et elle s'indigne dans la presse du sort meilleur réservé aux personnes déplacées juives par rapport aux personnes déplacées chrétiennes. Les fonctionnaires de l'Organisation internationale des réfugiés sont donc accusés de hiérarchiser les DPIS et de discriminer des catégories entières de non-juifs. Finalement, l'argumentaire anti-soviétique récurrent des DPIS baltes et le soutien qu'ils obtiennent d'une partie des associations américaines trouvent un écho de plus en plus fort dans le contexte de la guerre froide naissante. Dans les camps eux-mêmes, les personnes déplacées font tout pour démontrer leur adaptabilité aux sociétés occidentales, et notamment à la société américaine. L'Édipus letton, par exemple, par la voix de leurs représentants ou par la voix des fameuses élites culturelles en exil, arrive à démontrer qu'elles sont parfaitement adaptées au mode de vie américain par leur profession, par leur religion, par leur souci de la paix sociale, etc. Et toute cette rhétorique presque de promotion du groupe et en même temps la rhétorique anticommuniste finit par leur être favorable. Donc à partir de 1947-48, il est évident que les Américains sont prêts à les accueillir et qu'ils suivent donc toute la rhétorique anticommuniste que je viens de décrire. Je citerai pour terminer un journal catholique qui s'appelle America et qui date de 1948, à la veille de l'accueil massif des personnes déplacées aux États-Unis. Les personnes déplacées baltes sont peut-être nazies, cependant leur venir en aide constitue un défi concret au communisme. La nouvelle donne internationale incite donc les Occidentaux à accueillir toutes les personnes qui sont cataloguées collectivement comme anticommunistes. Et je dois le rappeler aussi, les Américains, en ce qui les concerne, ont besoin d'un savoir en urgence sur ce qui se passe en URSS, puisque c'est la guerre froide. Avant 1945, il n'y a quasiment aucune chaire universitaire consacrée à l'histoire russe. Il n'y a quasiment aucun apprentissage du russe dans les milieux scolaires. Et en à peine 10 ans, le nombre de chaires universitaires est plus que triplé. Et d'autres agences nationales, comme par exemple la CIA, recrutent rapidement autant de personnes que possible qui ont un savoir sur l'URSS et dont l'anticommunisme ne fait aucun doute. Donc les Baltes font partie, du point de vue américain, de cette population anticommuniste choisie, qui est désormais non pas qualifiée collectivement de complice d'Hitler, mais qualifiée collectivement de victime de Staline. Pour conclure, dans ma troisième partie, je voudrais juste revenir relativement rapidement sur la façon dont l'URSS a perçu les choses. Donc, à partir de 1946-1947, l'URSS a rapatrié chez elle 6 à 7 millions de prisonniers de guerre et de travailleurs forcés. Et la même année, en 1946, il est officiel que ceux qui ne veulent pas rentrer ne rentreront pas. Donc l'URSS officialise la fin du rapatriement. Ça se voit parce que toutes les institutions chargées du rapatriement en URSS ferment à cette époque ou voient leurs effectifs fondre. Et dans le cas de la Lettonie, ça se remarque d'autant plus puisque Moscou écrit à Riga en disant que l'office du rapatriement letton doit être fermé. Et ce, dès mars 1946, Moscou écrit « La majeure partie des rapatriables dans votre République est terminée. Seule une quantité insignifiante de citoyens soviétiques lettons demeure concernée par le rapatriement. En conséquence, je considère possible de réduire à 90% le personnel des organismes de rapatriement de votre République à partir du 1er mars. » Ce qui est certain, donc, c'est qu'en 1946, les soviétiques ont bien pris conscience que le rapatriement était fini, que seul ne reviendrait qu'une poignée de volontaires qui n'auraient pas forcément trouvé leur bonheur en immigration, et qu'en ce qui concerne les Baltes ou les Ukrainiens désormais dans les zones occidentales de l'Allemagne, il était impossible de les rapatrier. Cependant, c'est exactement au même moment que se déploie à l'égard des personnes déplacées en Allemagne une propagande phénoménale qui occupe d'ailleurs toutes les autorités des républiques concernées et les autorités soviétiques qui demeurent en Allemagne. Et donc on peut considérer que ce déploiement de propagande est une sorte de paradoxe, puisque c'est justement au moment où il est quasiment certain que les déplacés ne rentreront pas, que cette propagande a connu, mais vraiment des proportions absolument gigantesques. Qu'il s'agisse des journaux, des films, qu'il s'agisse aussi des appels placardés dans les camps de réfugiés. Les soviétiques font tout pour s'intégrer dans un discours portant sur les personnes déplacées. Je rappelle que du point de vue de l'URSS, le groupe de ces personnes déplacées est une véritable épine dans le pied. Bon, d'abord, ils ont fui l'URSS, ce qui en soi, et par le fait même de leur action, démontre que l'URSS est loin d'être le paradis pour les peuples, mais plutôt une prison pour les peuples. Les déplacés lettons, baltes, ukrainiens, se retrouvent d'ailleurs comme une sorte de représentants à l'extérieur des frontières de l'URSS, d'une nation qui a été annexée et dont l'annexion n'a toujours pas été reconnue internationalement. Donc ils incarnent en fait un problème diplomatique en ayant quitté le pays. Ces déplacés refusent radicalement de rentrer. Il ne cesse de dénoncer la politique soviétique, il ne cesse de dénoncer Staline et de dévoiler les pratiques d'épuration et de répression qui ont été en cours en URSS en 1940-41. Et il donne donc une image assez peu flatteuse du vainqueur soviétique qui, à l'inverse, a, pour la plupart de l'opinion publique, une image extrêmement élogieuse, étant donné qu'il est considéré comme le principal vainqueur et libérateur de l'Europe. Donc que faire face à cette population qui refuse de rentrer et ne cesse de dénoncer l'URSS ? Première étape, exiger le rapatriement forcé des criminels, mesure qui va s'avérer impossible, puisque de plus en plus, je vous le disais, les alliés occidentaux abandonnent la vérification ou ne condamnent personne. Exiger le rapatriement des criminels qui auraient été considérés comme tels. Là aussi, c'est improbable, puisque aucune vérification n'a mené à des conclusions définitives. Ainsi, dernière solution, inciter les populations au retour grâce à ce discours de propagande dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ce discours fait intervenir de très nombreuses institutions, il y a énormément de personnes qui s'intéressent à la question. J'ai été frappée, quant à moi, par le nombre de dossiers d'archives consacrés à cette question. Et je vais vous donner un exemple de propagande destinée aux... deux exemples plus exactement, destinés aux personnes déplacées en Allemagne occidentale. Premièrement, l'exemple d'un film qui s'intitule « Ils sont rentrés dans leur patrie ». Et deuxièmement, l'exemple d'une affiche qui était placardée dans les camps de réfugiés. Alors, le documentaire montre à quel point ceux qui sont revenus de leur plein gré en URSS ont retrouvé des situations tout à fait avantageuses, montre aussi à quel point ils ont retrouvé leur famille, leur position professionnelle. Les films s'attardent longuement avec de très longs plans séquences sur les paysages urbains et ruraux des pays en question, pour, je pense, attiser la nostalgie de la nation perdue. Et aucun de ces films n'insiste sur, on va dire, les grands politiques soviétiques communistes. En fait, aucun film ne parle de la collectivisation, aucun film ne parle de l'importance accordée aux ouvriers, aucun film ne parle des différentes politiques sociales soi-disant menées sous Staline. Il n'y a vraiment aucun discours communiste dans ces films. Le seul objectif est vraiment de attiser la nostalgie du pays perdu et d'inciter à revenir. Quant à l'affiche qui est placardée dans les camps et qui, je pense, accompagne la diffusion de ce film, elle s'adresse notamment à des rapatriables qui se seraient retrouvés esselés en exil. Donc je vais vous en citer juste des passages. Tous ceux qui reviennent seront conduits à leur domicile ou bien selon leurs vœux au domicile de leurs proches. Ils bénéficieront d'un emploi dans leur spécialité conformément à leurs souhaits. Tous seront bénéficiaires d'un transport gratuit jusqu'à leur domicile. Une aide matérielle sera concédée lors de leur arrivée. Les mères de famille nombreuses ou les mères célibataires bénéficieront d'une aide de l'État. Les jeunes souhaitant s'inscrire pour leurs études supérieures seront prioritaires, etc. etc. Donc on sent bien que les soviétiques ciblent les catégories les plus fragilisées, les jeunes femmes seules, les étudiants, les jeunes, ceux qui se répartissent sans leur famille et qui sont sans doute ceux qui auront le plus de mal à trouver leur place en exil. On peut donc considérer que la propagande soviétique est une sorte de pendant au désir migratoire, en démontrant que finalement, rentrer chez soi est sans doute un moindre mal que de s'installer dans un pays inconnu où la reprise de la vie quotidienne serait extrêmement difficile. Ma dernière hypothèse sur la propagande soviétique est qu'à la fin des années 40, ils ne veulent surtout pas faire en sorte que les Occidentaux ou les déplacés soient les seuls détenteurs du discours sur leur propre exil. Et à partir du moment où il est certain que les frontières occidentales s'ouvrent, le discours soviétique change radicalement. Désormais, il n'est plus question de clémence ou de retour d'éventuels rapatriables qui sont désormais d'ailleurs immigrés au Canada, aux États-Unis ou en Australie et qui sont d'ailleurs maintenant citoyens américains, australiens ou canadiens. Désormais, il est question de les dénoncer collectivement comme les collaborateurs du nazisme et de dénoncer aussi les nations qui les ont accueillis. À ce titre, la propagande soviétique, à partir des années 50, s'intègre dans une dimension beaucoup plus large dans laquelle l'URSS se présente comme le dernier représentant du front antifasciste que les alliés occidentaux auraient trahi. Et dans le cadre de cette trahison britannique et anglaise, les soviétiques n'hésitent pas à inclure la question des réfugiés qui ont trouvé une possibilité d'immigration. Cela démontre bien que l'Amérique de Truman puis d'Eisenhower a abandonné la lutte contre le nazisme en accueillant autant de collaborateurs chez elle. Pour conclure, Je dirais que ce qui m'a vraiment intéressée dans le cas des personnes déplacées après la guerre, et notamment dans le cas balte, c'est que la réputation collective n'a cessé de se modifier et a été déterminante pour le destin de ces personnes déplacées. Que, je vous le rappelle, elles sont donc passées de victimes, de complices d'Hitler à victimes de Staline du côté occidental, tandis que du côté soviétique, le discours a évolué d'une véritable clémence, d'un appel au retour à la reconstruction collective du pays, à une dénonciation virulente de ces déplacés qui ne sont plus juste des représentants de l'État bourgeois déchu, mais aussi des collaborateurs et encore plus des citoyens des pays ennemis. Donc le sort des DPs est indissociable de la reconfiguration géopolitique de l'époque, et indissociable aussi des différents débats et discours politiques qui ont accompagné leur histoire. Je vous remercie pour votre attention.
Merci infiniment, Juliette, d'avoir éclairé avec tant d'énergie, de fougue et aussi de limpidité des pages d'histoire de l'Europe extrêmement complexes, dont on mesure rarement qu'elles ont pu être à ce point, voilà. Donc moi, je pense qu'on a 20 minutes en gros pour échanger, donc je préfère donner la parole maintenant à la salle, quitte à revenir ensuite sur certains points peut-être plus précis. Du coup, on va procéder comme ça. Enfin, je sais pas si c'est nécessaire en fait de faire circuler un micro.
Je peux répéter les questions s'il faut.
Non, mais je pense qu'on entend bien.
Ok.
Donc, non, c'est pour l'enregistrement. Non, mais il n'y a pas de problème. Non, comme tu veux. Mais sinon... Donc, y a-t-il des questions? Sinon, moi, je reprendrai les miennes. Sinon, je m'arrête deux secondes sur ce que j'ai noté. Il y a une question, parce que en plus je suis myope, moi, donc je vois pas bien.
Personne en pose une petite question qui m'intéresse peut-être que moi. C'est la commission. D'abord, merci parce que c'était passionnant. La Commission internationale de traçabilité, c'est une association ou c'est une initiative publique d'État?
Alors, donc c'est en anglais, c'est International Tracing Service. Et ça a été mis en place, me semble-t-il, par d'abord l'Organisation internationale des réfugiés, et puis ça a été récupéré ensuite par le Haut Commissariat aux réfugiés. Donc c'est une initiative qui vient des organismes internationaux et dont les archives sont situées à Washington et en Pologne.
Et il y a des choses disponibles sur Internet ou pas du tout ?
Ils commencent à tout numériser, oui. Il y a un programme en ce moment financé, je crois d'ailleurs, en partie par l'Union européenne, de numérisation.
En tout cas, il y a une copie, effectivement, à l'Holocaust Memorial de Washington.
Oui.
Sinon, c'est vraiment au cœur de je ne sais quelle province polonaise et pas très facile d'accès.
Non, c'est en fait
c'est plus simple à Washington. Mais je sais pas qui a travaillé sur ces fonds-là.
Ce sont des sources qui ont été redécouvertes relativement récemment. Et ceux qui s'y intéressent sont d'abord ceux qui retracent la destinée des réfugiés juifs. Et de plus en plus aussi des historiens d'origine des pays de l'Est qui font l'histoire de leurs propres réfugiés, donc les Polonais. Et je connais une historienne estonienne aussi qui travaille beaucoup là-dessus.
C'est vrai qu'on imagine les potentiels de cette source. Voilà, puisqu'il s'agissait pour les gens de se retrouver, d'essayer de se chercher à travers le monde. Et,
Moi, je vais... Bon, tout d'abord, merci beaucoup pour votre conférence. Elle est vraiment passionnante. Et justement, je voulais revenir au début. L'histoire de la comparaison. Moi, je ne suis pas historienne. Et chaque fois, effectivement, cette comparaison qui est mise en avant, moi, ça me pose problème. Et j'aimerais bien discuter avec vous, d'abord sur les catégories qui sont utilisées, parce que vous parlez des réfugiés, bon, je ne sais pas, j'ai un juriste à côté. Nous, effectivement, toute la question des réfugiés, est-ce que c'est des demandeurs d'asile, ça pose un problème qui n'est pas seulement dans la représentation, c'est aussi dans les faits, parce que ça a des effets concrets dans la construction aussi des parcours migratoires. Et vous avez, au début, parlé effectivement d'un colloque que vous avez organisé sur cette question. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus jusqu'à quel point on peut pousser cette comparaison, non seulement en termes des nombres, parce que là, on voit quoi, je veux dire, on aurait presque envie, on ne peut pas comparer. Et en même temps, au niveau vraiment des catégories, de la représentation du phénomène. Tu voulais ajouter quelque chose ?
Au début, elle a bien précisé. Oui,
oui tout à fait. Non, mais
il n'y avait pas encore de catégorie.
Tout à fait.
La convention date de
51, je crois.
Ouais, mais tout à fait. Donc la question se pose.
Il y avait une catégorie de réfugiés définie par la première convention de Genève sur cette question, qui est la convention de Genève de 33.
Je te donne les.
Et
c'est toi, par contre, tu parles très doucement.
Non, mais voilà, je disais juste qu'il existait un statut de réfugié apatride à l'époque qui vole en éclats, justement, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, et qui était donc défini par la Convention de Genève de 1933, qui est, voilà, le premier texte fondateur de ce statut. Et que la guerre remet complètement en question, et justement parce qu'il faut. Parce que précédemment, le statut était donné à des groupes humains entiers. Parce qu'ils avaient été persécutés en tant que groupe systématiquement, et du coup donc il n'y avait pas d'instruction à mener pour définir, et pas d'investigation personnelle et de preuve de persécution à donner quand on faisait partie de ce groupe, donc au demeurant les Russes d'abord et les Arméniens ensuite, et donc le statut découlait de votre appartenance à ce groupe. Et c'est plus du tout le cas à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, où justement il va falloir prouver ses actes personnels, parce qu'on veut filtrer justement et ne pas donner le statut de réfugié à d'éventuels anciens collabos nazis, etc. Donc c'est ça aussi qui guide la redéfinition du statut de réfugié et la nouvelle convention de Genève, donc en 51, qui oblige une investigation telle qu'on la pratique aujourd'hui, et incitant le demandeur d'asile à prouver sa persécution, pour le coup. Voilà. Donc c'est vraiment ce basculement lié en partie à tout ce que Juliette a expliqué, et aussi l'ère du soupçon, bien entendu, qui s'infiltre. Et là, on peut quand même tirer des fils de comparaison avec les situations d'aujourd'hui, puisque on a parlé de la possible infiltration des réfugiés syriens par des djihadistes. Enfin, il y a toujours la figure de l'ennemi qui se cacherait parmi les.
Merci beaucoup. J'y vais.
Ouais. Ah oui, t'as ton micro.
Je vais rebondir sur ce que tu dis, Anouche. En fait. Bon, d'abord, il y a juste un effet de coïncidence, parce que quand Anouche m'a proposé de venir ici, il se trouve que justement, j'étais en train de faire étudier à mes élèves la question de la crise des migrants, réfugiés, blablabla. Enfin, je ne sais pas quel terme utiliser. Et en fait, en leur présentant la question, je me suis rendu compte que très fréquemment, dans les vidéos assez pédagogiques qui sont en site sur le monde ou sur le monde diplomatique, on dit la première phrase, c'est la plus. La crise la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale. Et ça coïncidait quasiment au moment où j'ai su que j'étais invitée ici. Donc, je me suis dit que j'allais commencer par cette comparaison, non pas parce que j'y adhère, je suis comme vous, je suis très extrêmement dubitative vis-à-vis des comparaisons hâtives, mais parce qu'on l'entendait assez, justement, assez souvent, en fait, dans les médias, mais sans jamais, justement, détailler. Néanmoins, sans rentrer dans les détails, je pense que ce que dit Anouche est tout à fait intéressant, et c'est ce que j'aurais répondu aussi, c'est ce qui me semble frappant dans toute forme de crise du refuge, c'est premièrement l'importance de la catégorisation. Qu'est-ce qu'on a comme image de ces personnes qui arrivent ou qui partent, justement, comme on sait très peu de choses sur elles, parce qu'une fois qu'on est parti, de chez soi, il y a effectivement un flou qui demeure sur son origine, sur son passé, sur ses actions passées. Donc il y a toujours une sorte de flou autour des réfugiés dont on ne connaît pas forcément avec exactitude le passé, si bien que c'est d'autant plus tentant que de leur attribuer des catégories ex nihilo. Et la troisième chose qui me frappe, c'est effectivement ce soupçon. Alors, dans le cas que je vous ai présenté, le soupçon, pour une partie des personnes déplacées, était largement justifié. Mais il était injustifié de coller à l'ensemble du groupe l'étiquette de collaborateur, tout comme il était injustifié d'innocenter l'intégralité du groupe. Mais là, les réfugiés, les personnes déplacées dont je parle, ont vraiment subi ou bénéficier d'étiquettes collectives, soit positives, soit négatives. Et je trouve que c'est ça qui est marquant, c'est la rapidité avec laquelle on a tendance à qualifier des groupes de personnes qui sont en déplacement, sans forcément savoir ce qu'il en est réellement. Et en ce qui concerne les statuts, donc Anouche a très bien répondu, je pense que justement, après la Seconde Guerre mondiale, comme Anouche l'a dit, on utilise le terme de personnes déplacées tant on ne sait pas exactement quel statut on va leur attribuer et tant on ne comprend pas exactement ce que sont ces personnes. Puisque l'idée globale, hein, quand les Alliés arrivent en Allemagne, qu'ils soient occidentaux ou soviétiques, c'est que dès qu'on trouve quelqu'un qui est déplacé, on le rapatrie. Donc au départ, il y avait cette idée que le déplacement était forcément provisoire et allait se clore par un rapatriement. C'est petit à petit qu'on se rend compte qu'il va être impossible de rapatrier 800 000 à 1 million de personnes. Et le terme de personne déplacée reste parce qu'on est en train de se poser la question juridiquement, est-ce que le statut d'apatride est encore valable ? En même temps, la plupart des personnes déplacées ont conservé leur citoyenneté d'origine, donc il n'est pas possible de leur attribuer le statut d'apatride. Et le terme de réfugié n'est plus valable non plus puisqu'il s'agit de faire du cas par cas. Voilà. Et en 1951, si mon souvenir est bon, c'est à ce moment-là que le Haut Commissariat aux réfugiés définit très clairement ce qu'il entend par personne déplacée, par réfugié. Mais ça se fait à l'issue, en fait, de ce processus.
Merci. Oui, bonsoir. Moi, j'aurais aimé vous poser une question, un petit peu annexe peut-être, mais quelle est la place de la France dans cette situation ? Est-ce qu'il y a une politique d'accueil définie par le gouvernement français ? Est-ce qu'il y a des réfugiés qui se déplacent vers la France et qui demandent l'asile ? Est-ce que c'est dans les mêmes proportions qu'actuellement, c'est-à-dire tout en Allemagne et presque rien en France ? Mais bon, comment sont les représentations par rapport à tout ça ?
Merci beaucoup. Alors la spécialiste de la question, c'est ma collègue Julia Maspero, qui a travaillé justement sur la façon dont, dans la zone française, les autorités géraient les personnes déplacées. Alors, je vais résumer ses recherches. La première chose qu'elle a mise en évidence, c'est que les autorités d'occupation française ont refusé d'accueillir les personnes déplacées. Elles ont dit, on a la plus petite zone, on a la zone la plus ravagée, donc on veut un minimum de camps de personnes déplacées. L'immense majorité de ce million de personnes qui restent en Allemagne se situe dans les zones américaines et britanniques. Ensuite, en ce qui concerne les personnes déplacées de la zone d'occupation française, ce qui est assez marquant, c'est qu'elles sont acceptées en France, donc pas dans la zone d'occupation, mais dans le pays, pour répondre à des besoins de main-d'œuvre. Et donc, il y a une politique ciblée d'accueil, et souvent d'ailleurs provisoire, un peu dans la suite des politiques d'immigration française de l'entre-deux-guerres. Donc, on choisit majoritairement les Polonais, puisque comme il y a déjà eu une vague d'immigration polonaise dans les années 1920, les Polonais sont considérés comme une main-d'œuvre fiable et déjà connue, mais dans l'espoir qu'une fois la reconstruction passée, ces personnes vont rentrer chez elles. Et c'est en fait ce qui se passe parce qu'à la fin des années 40, une partie des personnes qui ont été acceptées en France est exclue. Et en revanche, beaucoup de Polonais ne rentreront pas en Pologne, mais s'installeront en Allemagne. Et sinon, dans l'administration française, qui occupent l'Allemagne, les positions vis-à-vis des personnes déplacées sont extrêmement variées. Notamment, y a la personne qui est en charge des rares camps français a beaucoup, beaucoup de bienveillance envers les déplacés baltes, parce que lui-même a vécu en tant que diplomate en Lettonie 10 ans pendant les années 30. Donc, il fait tout pour que ces déplacés aient la possibilité d'émigrer. Et il fait tout pour éviter leur rapatriement. Et il est aussi le fondateur d'une université balte, grâce à laquelle les personnes déplacées lettonnes, lituaniennes et estoniennes pourront faire des études lors de leur séjour temporaire en Allemagne. Donc c'est assez variable. En ce qui concerne l'accueil définitif des personnes déplacées en France, c'est surtout pour des raisons économiques et besoin de main-d'œuvre et en général un accueil provisoire.
Moi, je voulais savoir si vous pouviez d'abord juste préciser comment ils ont été exclus à la fin des années 40, ceux qui étaient en France, juste. Et ma question a porté plutôt sur la gestion de ces personnes dans les camps, donc dans la zone britannique et américaine, dans les deux zones, parce que je crois que vous avez parlé de la Croix-Rouge, mais comment administrativement ça a été géré, notamment, je crois, si j'ai bien compris, ils étaient près d'un million quand même, 800 000 encore à la fin. Et finalement, ça se passe assez vite. Quand il y a le retournement du stigmate, ils arrivent à être gérés assez rapidement, à être accueillis dans les pays, notamment américains et en Australie. Donc on se dit que nous, ça met beaucoup plus de temps actuellement. Pourtant, ça doit être beaucoup plus simple.
Peut-être juste dans la foulée, par rapport à ça, justement, quel est le rôle de mouvements associatifs de l'époque, parce que par rapport à la population juive, on sait l'importance de Wayas, hein, qui a depuis les États-Unis beaucoup travaillé sur la reconnaissance, parce que de populations qui n'avaient plus aucun document prouvant leur judéité, etc. Et notamment, est-ce que Wayas aussi a été un acteur de la lutte contre l'entrée de collaborateurs? Est-ce qu'il a eu un double rôle à la fois de reconnaissance de la judéité d'une population persécutée et en même temps de défenseur de ces populations-là pour justement faire une action contre d'éventuels collaborateurs auprès des États-Unis, enfin de la diplomatie américaine?
Merci beaucoup. Alors, sur la question de la France, une fois de plus, je ne suis pas spécialiste parce que je n'ai pas du tout étudié le problème. De ce que je connais des recherches de Julia Maspero, c'était en général un non-renouvellement du permis de séjour. Oui, c'était déjà du...
Déjà dans l'entre-deux-guerres, dans les années 20, pareil, hein, on avait fait venir des réfugiés pour la reconstruction,
ouais.
même cadre un peu. Hein,
ouais.
Enfin, tu vois. Et dans les années 30, on ne renouvelle pas les titres de séjour quand la crise économique s'installe, et etc.
Okay, voilà, c'est, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en gros, de ce que j'ai compris de la comparaison de ce que moi j'ai vu et des recherches de Julia, et puis plus généralement de ce que j'ai lu, c'est que la France, vis-à-vis des personnes déplacées, est vraiment... dans la poursuite de sa politique migratoire, sans véritable changement, alors que du point de vue international ou dans les autres puissances occidentales, on est vraiment en train de réfléchir quoi faire spécifiquement par rapport aux déplacés. Alors, la gestion des camps... Voilà, bon, les Baltes ont ceci de particulier qui sont arrivés en Allemagne avant la fin de la guerre, donc entre septembre 1944 et janvier 1945. Et souvent, ils étaient logés chez l'habitant. Donc, quand je dis les camps, c'est plutôt des centres de sociabilité. Mais en fait, il y a un pourcentage gigantesque de personnes déplacées qui ne sont pas dans les camps, en fait. Notamment parmi les Lettons et parmi, parmi les Estoniens et les Lituaniens. Quant aux camps eux-mêmes, les Baltes obtiennent très vite d'être mis à part et pour surtout éviter toute confusion possible avec les Ukrainiens, les Biélorusses ou les Russes. Et très vite, ils autogèrent leur propre camp en reconstruisant des écoles, il y a des services religieux, il y a des centres de formation, et des centres d'apprentissage des langues. Donc ce sont des camps qui sont vraiment bien organisés. Et il se trouve qu'aussi, les Lettons sont partis en famille. Et comme je vous le disais, on réussit à emmener avec eux, pour les plus riches, quelques bijoux de famille ou quelques biens. Donc il y a une certaine solidarité qui se veut créer du fait de cette fuite un peu spécifique et du fait aussi que certains d'entre eux ont quelques moyens de revenus. Et si bien que, par exemple, les agents américains, quand ils visitent l'Allemagne et qu'ils visitent notamment les camps de personnes déplacées dans l'optique de savoir comment ils vont réaliser leur quota, ils trouvent que les camps des Lettons et des Baltes sont extrêmement bien tenus, qu'il y a des parterres de fleurs, que justement il y a une volonté de mettre en scène la religion protestante. Ils sont très heureux de savoir qu'il y a des fonds de formation. Donc l'image des personnes déplacées baltes devient à la fin des années 40, très positive, justement au moment où s'ouvrent les frontières américaines. Quant au mouvement associatif juif, et donc je pense aussi au Joint, j'ai lu un livre assez édifiant dont l'auteur s'appelle Haïm, ça s'écrit H-A-I-M, je ne me souviens plus de son prénom, qui démontre qu'effectivement, au moment où est décidé le fameux DP Act, donc la loi qui modifie les quotas d'entre-deux-guerres et qui autorise les DPs à rentrer aux États-Unis. Il y a une lutte sans merci qui s'opère dans les couloirs du Congrès entre les associations plutôt chrétiennes, et notamment protestantes, et les associations juives. La première version de l'acte définit donc, alors je n'ai pas les chiffres en tête, l'arrivée de 400 000 personnes. Et dans ces 400 000 personnes, ils définissent donc une partie selon des critères ethniques et une partie selon des critères professionnels. Et la première version est extrêmement favorable aux réfugiés juifs, grâce justement à l'action répétée depuis les années de guerre des associations juives aux États-Unis. Puis finalement, elles perdent la bataille, puisque la deuxième version qui sera finalement votée par le Congrès restreint énormément le quota juif selon le critère ethnique. Et d'après l'auteur de ce livre, que je vous cite là, Haïm, le fait d'avoir augmenté le quota de paysans, c'était aussi dans la tête des législateurs américains une possibilité d'exclure les juifs puisqu'ils étaient réputés non paysans. Donc à travers la restriction ethnique et l'augmentation du quota professionnel paysan, en réalité, les États-Unis ont accueilli moins de DP juifs que ne l'avait prévu la première version de l'acte et que l'espéraient les associations juives. Les premiers à être autorisés à rentrer aux États-Unis sont ceux qui avaient fait la demande en 1938 et qui s'étaient vus refuser le visa après la nuit de cristal. Et donc, oui, le Congrès américain, en fait, est super antisémite en 1948. Voilà.
Donc, on pourrait dire qu'aujourd'hui, on est dans une continuité des politiques qui ont été mises en place dans ces années-là, quoi. En vous entendant, on est dans cette continuité-là, quoi.
Je suis assez désespérée pour dire que oui, je pense, mais sans vouloir faire
une comparaison
scientifique terme à terme, je pense qu'effectivement, il y a quand même une question occidentale par rapport au refuge qui est ancrée dans l'histoire du XXe siècle, quoi, et qui, avec des difficultés permanentes de compréhension de ce qu'on est en train de vivre. Mais la comparaison s'arrête là.
Mais, voilà. La discussion après, quoi. Elle s'arrête là. Et donc, qu'est-ce qu'on doit reconsidérer à l'intérieur de tout ça, je sais pas, parce que moi, si je vous entends, il y a plus de continuité que des ruptures.
C'est fort probable. Et c'est fort probable. Mais oui, je suis je sais pas trop quoi répondre à votre question.
Non, en plus, c'est une question que je me pose.
Moi, la politique de la France, ça paraît évident, en tout cas.
Ouais.
Et c'est ce qu'on disait aussi, quoi.
Ouais, durée, c'est la même chose.
C'est ce que montre aussi Alexis Spire dans son travail sur la politique migratoire en France, la longue durée de pratique, de catégorisation complètement intégrée par l'administration. Il y a une mémoire administrative de la gestion de ces questions-là. Voilà, et à partir d'archives qu'on appelle des archives de la pratique, donc c'est pas... Voilà, c'est des circulaires, c'est tout ce qui module le droit au coup par coup. À partir de ce type d'archives, on peut tout à fait retracer la permanence de cette mémoire administrative de la gestion des populations étrangères, immigrées, réfugiées, etc.
Ce qui est aussi impressionnant, je trouve, c'est la façon ce que sont en train d'étudier certains sociologues actuellement sur justement l'accueil des réfugiés en Europe, mais en essayant de démontrer que les politiques des pays sont assez différentes, c'est une fois de plus la réputation collective du groupe. Par exemple, en ce moment, en termes de quotas nationaux, en Allemagne, sont accordés beaucoup plus de permis de séjour aux Syriens et aux Irakiens qu'aux Albanais et aux Kosovars, alors que pendant la guerre en Yougoslavie et dans les années qui ont suivi, les peuples qui émigraient en Allemagne et qui étaient autorisés à y séjourner étaient essentiellement issus de Yougoslavie. Alors comment ça s'explique? D'après un chercheur allemand, c'est parce que les Allemands considèrent actuellement que les Syriens et les Irakiens sont plutôt des classes moyennes qui du coup présentent assez peu de risques de désordre social, alors que désormais les immigrés qui viennent d'Albanie et du Kosovo ne sont plus des immigrés de guerre, sont vraiment des immigrés beaucoup plus économiques, et qu'il est donc moins préférable de les intégrer dans la société allemande. Et je pense que là, en fait, dans le cas que j'ai étudié, il y a vraiment ça qui rentre en compte, c'est comment forger la réputation d'un groupe qui ne sèmera pas le désordre dans le pays d'accueil.
Prolonger un petit peu ce que vous venez de dire, je pense aussi qu'il y a une tendance, les reculs historiques nous amènent aussi à réfléchir sur ça. Très souvent, on analyse la catégorie des réfugiés comme séparée, tandis que là, on voit comment elle est strictement liée à des politiques migratoires, à des catégorisations beaucoup plus larges. Et là, dans les cas de la France, comme vous disiez, cette continuité des politiques qui n'est pas strictement destinée aux réfugiés, mais qui est une politique d'immigration en général. Et je pense que l'erreur la plus grande qu'on est en train de faire, la plupart des gens travaillent sur les réfugiés comme si c'était ces petits carrés isolés, et on ne tient pas compte effectivement ni de la continuité historique dont vous parlez aujourd'hui, et ni non plus comment les politiques migratoires destinées aux réfugiés sont partie d'un puzzle qui est beaucoup plus large. Moi, c'était ça qui...
Je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus. Après, je sais qu'il y a beaucoup de travaux d'historiens qui ont montré justement que, d'une part, le droit s'est adapté à la situation très singulière des réfugiés privés de statut, mais que dans la gestion concrète de ces populations-là, bien souvent, l'asile, l'exil, enfin tous ces grands termes, concrètement, ça a été traité comme des migrants économiques, sous forme de... Et pas autrement. Je veux dire, c'est des asiles qui se sont concrètement organisés en migration économique. Ça, on le sait aussi. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est à double détente. Il y a d'une part l'élaboration du droit qui singularise un champ d'expérience, et de l'autre, quand même, des pratiques d'État qui sont de la gestion de populations dont on cherche un intérêt pour l'économie nationale avant tout. Mais ça, je pense que c'est déjà, à mon avis, un acquis. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, toi.
Si, alors, je n'ai pas eu l'occasion de... À part dans le cas de la France qu'a développé ma collègue, je n'ai pas eu l'occasion de vraiment voir le lien entre la question du refuge et la question de l'immigration économique. Mais ce qui est frappant, c'est que... Déjà, il y a toujours la volonté de se demander est-ce que cette personne qui est migrante, est légitime ou pas. Et au-delà de cette question-là, en fait, il y a une autre question qui est est-ce que c'est un déplacé volontaire ou est-ce qu'il a été forcé à l'exil ? Et je trouve que cette catégorisation entre fuite volontaire, enfin départ volontaire et départ forcé, elle me semble quand même aberrante, dans le sens où si on a des centaines de milliers de personnes qui quittent leur domicile, a priori, c'est pas un choix. Et je l'ai d'autant plus remarqué à travers l'étude de l'URSS où, du fait des politiques staliniennes, on a des déplacements forcés. Ben, c'est une évidence. Hein. La déportation est un outil politique fondamental de l'URSS de Staline. Et on a aussi des mouvements de fuite comme celui que j'ai étudié. Et il y a un autre mouvement de fuite que je ne vous ai pas présenté aujourd'hui, c'est les Soviétiques qui, au moment où la Wehrmacht arrive, eux, ils se réfugient en URSS non occupée. Eh bien, est-ce que ce sont des départs volontaires ? Enfin, c'est très compliqué à dire. Quand on risque sa vie, a priori, ou quand on risque la misère, je vois pas en quoi c'est volontaire. Et je pense qu'il y a toujours ce problème des autorités, c'est de catégorifier, enfin d'essayer de qualifier le motif du départ. Et bon, heureusement, nous on est historiens et on n'a pas à faire ça, mais c'est vraiment une. Voilà, mais je pense que c'est ça en fait qui pêche, c'est-à-dire de croire qu'il peut y avoir des départs volontaires en fait. Enfin, à part les. Voilà. Ce qui concerne une infime minorité de personnes qui changent de pays quand même.
Juste pour comprendre, il y a aussi une contradiction, c'est-à-dire que effectivement, les réfugiés, on les accueille parce qu'ils ne sont pas des migrants économiques, mais après, il faut bien les insérer dans les marchés du travail, et donc du coup, bon, toute la politique aussi de l'Allemagne, quoi, je veux dire, qui ne portait pas son nom, c'est une sélection des classes, des personnes qualifiées, etc., quoi. Donc c'est là aussi, c'est une fausse, comment vous dire, problématique. Il y a une idéologie derrière un peu problématique pour moi dans cette séparation. Après, même sur la question du forcé ou pas forcé, bon.
Moi j'avais une petite remarque aussi par rapport à ce qui vient de se dire là sur l'idée de continuité un peu historique là, par rapport à ce regard qu'on peut avoir sur le rapport à ces mobilités. Et par rapport à une expression que vous avez employée au début et peut-être le rapport du chercheur aux sources, donc pour être plus clair, j'étais en écoutant, je me disais aussi qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi sur cette époque-là, sur tous les mouvements qu'on pourrait aujourd'hui dire citoyens, c'est-à-dire qu'est-ce que nous enseigne aussi si on regarde, si on prend du côté de l'État, du point de vue de l'État, une sorte dont on y verrait une continuité. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi sur les mouvements citoyens qui ont pu avoir à cette époque, qui ont pu venir en aide à ces populations-là, dans ces lieux-là? Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a une continuité avec des formes de mobilisation qu'on voit aujourd'hui par rapport à des exilés, qu'on oublie souvent d'étudier? On voit toujours le point de vue de l'État, etc. Mais on laisse dans l'ombre toute une part de mobilisation citoyenne, etc. Donc, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait dire sur ces questions-là aujourd'hui et par rapport à vos travaux? Et notamment, je reviens par rapport à l'entrée. J'étais un peu, au début, un peu perturbé par l'utilisation de l'expression d'un lieu d'une grande diversité culturelle. Je me suis posé la question, est-ce qu'on peut employer l'expression de diversité culturelle? C'est un point de vue de chercheur pour décrire rapidement une situation, puisque est-ce qu'on peut parler de diversité culturelle quand on est face à des populations dont justement leur propre identité a été réprimée et persécutée? C'est bien pour ça qu'elles sont là, parce qu'on leur fait le procès de leur diversité culturelle. Donc du coup, je me suis demandé un petit peu comment est-ce qu'on pouvait réfléchir à tout ça. Et ma question est un peu à deux entrées, mais...
Alors, en Allemagne même, on n'a pas encore de recherches ou de témoignages qui ont été réalisés sur la façon dont les Allemands ont perçu les choses. Les seuls, moi, enfin, bon, je pense qu'il y a un biais parce qu'en fait, on connaît que les réactions hostiles de la population allemande aux réfugiés, et probablement il y a aussi eu des good Germans, mais en fait, les témoignages sur, on va dire, la mobilisation allemande sont extrêmement peu nombreux. Il faut quand même admettre que l'Allemagne est détruite. Enfin, je pense que les Allemands, ils pensent aussi à leur survie au quotidien, étant donné l'immensité des destructions. Alors, pas partout, hein, il y a quand même eu des zones un peu moins bombardées que d'autres, mais je pense que les Allemands ne voient pas forcément d'un bon œil que les Alliés s'occupent avec autant de soins des réfugiés et les laissent quand même survivre dans des conditions beaucoup plus pénibles. En ce qui concerne votre deuxième question, vous avez tout à fait raison, mon terme était très mal choisi.
Je voulais dire...
En fait, c'est donc l'historienne dont je vous parlais, Catherine Gousseff, qui avait mis ça en exergue à l'oral lors d'une de ses interventions, parce qu'elle s'intéresse aussi beaucoup aux questions d'exil et de déplacement. Et c'est vrai que c'est frappant de se dire que l'Allemagne nazie est le pays où il y a le plus de nationalités différentes à la fin de la guerre. C'est ça que je voulais dire. Le terme culturel était donc inapproprié. Néanmoins, il m'a fait penser à un truc, c'est que dans les 4 à 5 années qu'ont duré le temps de l'exil de ces millions de personnes, il y a eu des redéfinitions culturelles très fortes. J'ai parlé tout à l'heure de l'université balte. Il y a aussi eu des théâtres juifs qui ont été refondés à ce moment-là à Berlin. Il y a aussi des écoles, des cinéastes qui ont pu tourner des films en Allemagne. Donc, après la guerre, il y a une volonté de recréer une culture qui est à la fin un mélange entre culture nationale et culture de l'exil, avant de devenir plus définitivement une culture de l'exil. Mais j'aurais pas dû dire culturelle, je vous l'accorde.
Merci infiniment.
Merci beaucoup.
Merci à Juliette. Si certains étudiants doivent émarger, on a prévu une feuille. Donc merci encore à Juliette Denis. Et donc le prochain rendez-vous nous mène, je crois, au mois de janvier, si mes souvenirs sont bons, le 19, où nous recevrons un historien spécialiste des sociétés tziganes et des mobilités tziganes en Europe. Alors ça, c'est parce qu'ils n'étaient pas considérés comme des réfugiés, ils étaient considérés comme des...
Oui,
c'est le travail d'un ancien de migrataire ici. Ils sont considérés comme des Français.
Oui, mais malgré tout, c'est quand même
un
million déplacés.
Oui, c'est vrai.
Absolument, mais à partir du moment où ils ne sont pas perçus comme des étrangers...
Ils
ne
sont pas perçus, mais l'effet, c'est quand même un déplacement.
Absolument, mais c'est un exemple.
Et là, on intègre immédiatement.
Et là, on sait exactement ce qu'il faut faire.
On sait ce qu'il faut faire et on le fait sans difficulté.
Parce qu'ils sont perçus comme...
Alors qu'il y en a un million.
Non, mais après...
Les Italiens ou les Polonais, elle est
exceptionnelle un peu dans la longue durée de la politique d'État, mais elle est quand même existante.
Ouais. Mais là, par exemple, Merkel.